France Inter.
Aujourd'hui, pourquoi X, ex-Twitter, est devenu toxique, raconté par
David Chavalarias, directeur de recherche CNRS au CAMS et aussi directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Nous sommes en 1986 dans les couloirs du Capitole américain. Le sénateur Lloyd Benson se tient devant ses collègues. L'objet de son discours, une série de lettres massivement distribuées aux membres du Congrès, toutes semblant provenir de citoyens ordinaires. Mais ces lettres ne sont en réalité pas l'expression spontanée du peuple, mais plutôt des manifestations soigneusement orchestrées par des lobbyistes cherchant à influencer la législation. Benson, qui cherche un terme pour décrire cette pratique manipulatrice, propose une métaphore qui allait bientôt s'ancrer dans le jargon politique américain, comparant ces faux mouvements de base à un produit bien connu, l'astroturf, un type de gazon synthétique utilisé dans les stades sportifs pour imiter l'herbe naturelle. Il popularise le terme astroturfing. Ce mot fait référence à l'essence de ces campagnes artificielles, conçues donc pour ressembler à de véritables initiatives citoyennes aussi authentiques que du faux gazon sur un terrain de sport. Le terme astroturfing est ainsi devenu synonyme de fausse mobilisation où des intérêts particuliers créent l'illusion d'un soutien populaire massif. Après la Première Guerre mondiale, Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, a été le premier à théoriser et à généraliser l'utilisation de telles stratégies. S'appuyant sur les travaux de son oncle, mais aussi de Gustave Le Bon en matière de psychologie des masses, il affirme en 1928 « La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Si l'astroturfing n'a donc pas été inventé hier, ses capacités d'influence ont été décuplées grâce à l'avènement du web et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les techniques de l'astroturfing sont multiples, construction de faux profils en ligne, achat de faux followers sur Twitter ou de faux avis positifs, embauche de personnes pour manifester dans la rue, création de groupes citoyens de façade, la liste est longue. Le plus souvent, l'astroturfing implique la création massive par des algorithmes de faux comptes, des bots sur les réseaux sociaux ou l'usurpation de comptes existants. Ces programmes informatiques générant automatiquement du contenu sont très présents sur X, ex-Twitter, où ils influencent les tendances. Cette propagande computationnelle a par exemple particulièrement bénéficié à Donald Trump pendant la dernière campagne présidentielle américaine. La diffusion de fausses informations est devenue le fonds de commerce du réseau social X, avec des conséquences majeures pour nos démocraties. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour David Chavalarias.
Bonjour.
L'astroturfing, cette stratégie de communication, c'est un outil très utilisé aujourd'hui pour manipuler les internautes, donc ?
Oui, c'est un outil très utilisé parce qu'à la fois il est très efficace et peu cher. Et donc, effectivement, il est utilisé autant à des fins économiques qu'à des fins politiques ou géopolitiques.
Est-ce que l'astroturfing a fait gagner la Maison-Blanche à Donald Trump ?
Alors, c'est difficile de le dire comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que les techniques de manipulation d'opinion en ligne ont fortement contribué, a priori, à la victoire de Donald Trump, notamment parce qu'ils maîtrisaient entièrement l'architecture d'un réseau qui est X.
Les réseaux sociaux, ça n'est plus une découverte maintenant pour le grand public, ont donc des stratégies très bien élaborées pour influencer l'opinion, diffuser de fausses informations. Et c'est cette même manipulation des algorithmes qui a favorisé aussi la montée du climato-scepticisme sur la toile.
Alors oui, tout à fait. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite en 2022, parce qu'on a un observatoire depuis 2015 sur les débats en ligne, notamment sur X à propos du climat.
Climatoscope.
Qui s'appelle Climatoscope. Le site, c'est climatoscope.org. Et on a pu montrer avec une étude longitudinale que, en gros, à l'été 2022, il y avait une action pour favoriser le climato-scepticisme et que cette action, notamment, avait été effectuée avec de l'astroturfing, on a un exemple très, très clair où il y a plusieurs dizaines de milliers de robots qui se sont mis à promouvoir des narratifs sur le climat et des narratifs complotistes. Comme quoi, la manipulation via les politiques climatiques prendrait la suite des manipulations via les politiques sanitaires de Covid.
Vous parlez de robots, David Chavalarias, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à de véritables êtres humains derrière ces comptes ?
Alors, quand vous avez un compte sur Twitter, c'est difficile de savoir exactement qui est derrière. Par contre, il y a un certain nombre d'indicateurs qui vous disent quelle est la probabilité qu'un compte soit automatisé. On sait que des comptes sont automatisés, il y a des logiciels pour ça, etc. Donc on sait que ça existe. Mm-hmm. Et donc quand vous avez une campagne, il est possible d'analyser l'ensemble des comptes qui se sont exprimés comment et donner une probabilité d'automatisation. Et donc dans cette campagne-là, qui était en juillet 2022, on a estimé qu'à peu près la moitié des comptes qui ont lancé cette campagne étaient automatisés.
Ouais. Après 2022, est-ce que la tendance s'est renforcée encore plus vis-à-vis du climat en particulier ?
Alors, ça a continué à être important vis-à-vis du climat, mais ce qui s'est passé, donc nous, là, je parle des études qu'on a fait sur X, ce qui s'est passé, c'est qu'en début 2023, X a tout simplement fermé l'accès à toutes ces API, donc ces connecteurs informatiques qui nous permettent de regarder ce qui se passe. Et donc, nous, ni aucun autre organisme de recherche n'a pu faire d'études, approfondies pour savoir ce qui s'est passé. Et c'était un des buts, c'était de masquer les informations.
Ils ont fermé les informations, c'est-à-dire que vraiment, du jour au lendemain, demain, il n'y a plus accès du tout.
Oui, il faut bien comprendre pourquoi Twitter a été populaire. Twitter, c'est un des premiers réseaux sociaux où tout était public. Donc, quand vous publiez, c'est public, n'importe qui peut le voir. C'est pour ça qu'il y a des verbatims d'hommes politiques sur Twitter, etc. Et par ailleurs, Twitter avait construit un écosystème où des personnes tierces ou des acteurs tiers pouvaient se brancher sur Twitter et faire de l'information avec ça. Donc, ça s'appelait des connecteurs via des API. Mmh. Et donc, c'est ça qui a vraiment fait le succès de Twitter. Et quand Musk a récupéré Twitter, il a fermé ses API. Et donc, il a en fait tué tout un écosystème numérique d'applications sur Twitter et aussi il a empêché des centres de recherche ou des ONG de vérifier la fausse information et les campagnes d'ingérence qu'il y avait sur Twitter.
Donc, c'était votre cas, précisément.
C'était notre cas, c'est-à-dire qu'on faisait de l'observation, on faisait de la recherche sur Twitter, mais en plus, on a pu alerter d'un certain nombre de campagnes, soit d'astroturfing, soit de désinformation, et à l'heure actuelle, c'est plus possible.
Le militantisme dénialiste, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, pour donner un autre nom au climato-scepticisme.
Tout à fait, oui.
Il est très actif, en particulier sur Twitter.
Alors, il est vraiment très actif sur Twitter. Nous, ce que l'on a pu mesurer à l'époque donc, où on a fait cette étude-là, c'est qu'en gros, depuis 2015, il oscillait un peu comme dans la population mondiale, entre 25 et 30%, et qu'avec l'arrivée de Elon Musk, il y a eu un double phénomène, c'est-à-dire que les comptes, il a réintégré des comptes extrêmement agressifs envers les scientifiques du climat qui, du coup, pour partie, sont partis.
Ouais.
Et puis, donc, il a donné la voix, et on donnait la voix aux climato-sceptiques. Et du coup, en 3 mois, la proportion climato-sceptique dans l'ensemble des tweets est passée à 50%.
En dépassant, donc, finalement, la voix des climatologues eux-mêmes
et des
scientifiques.
Bien sûr.
L'objectif, c'est quoi ? C'est nier, amoindrir le réchauffement climatique ?
Alors, en général, l'objectif, c'est... alors, déjà, il y a plusieurs motivations derrière le climato-scepticisme, économique, politique, géopolitique. Mais toujours, l'objectif, c'est, d'une part, retarder les mesures climatiques. Donc ça, c'est par exemple pour profiter à tous ceux à qui ça va coûter.
Oui.
Et d'autre part, délégitimer des mesures politiques ou les scientifiques. Donc, et ça, c'est les nouveaux fronts qu'on a vus apparaître en 2022, c'est-à-dire des courants qui sont climato-sceptiques. Pas forcément pour des raisons économiques, mais vraiment pour des raisons politiques et idéologiques, c'est-à-dire essayer de saper la confiance des Français et des citoyens dans, en gros, les journalistes, les scientifiques, les politiques qui appellent à lutter contre le climat.
On va écouter les propos d'un climato-dénialiste. C'était à l'occasion d'un reportage de Public Sénat en juillet 2023.
Donc voilà, alors on a l'Italie qui est sous les eaux. Là, ici, dans le Massif central, ça fait 15 jours qu'il tombe de la flotte, mais on est en sécheresse. Moi, je me demande si tout ça, c'est pas fait pour mettre encore de nouvelles taxes.
Voilà, de jolis propos complotistes. Et ça, vous en avez l'habitude, vous les avez étudiés, vous les avez entendus 1000 fois, et finalement, c'est toujours les mêmes rhétoriques qui reviennent.
Oui, alors, c'est toujours les mêmes rhétoriques qui reviennent, avec des variations, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et ce qu'on a pu documenter aussi, c'est que donc une partie du climato-scepticisme actuellement s'inscrit dans un discours plus général d'opposition, en gros, pour faire rapide, élite anti-élite,
oui,
qui essaye en gros de fractionner la société en mettant le peuple contre ses élus, etc., etc. Et cette opposition, en fait, elle s'est déclinée, elle a commencé à bien trouver son audience pendant la pandémie. Donc, il y a eu ces discours-là, et ces discours, après, ont été récupérés et recyclés pour le climato-déanianisme et ensuite après pour d'autres choses.
Donc on a des populations anti-vax qui sont allées sur le terrain du climat.
On a des leaders qui avaient fait leur beurre de la lutte contre la vaccination et les mesures Covid, hein, et qui ont donc entraîné avec eux toute une chambre d'écho numérique, et qui ensuite ont entraîné leur même chambre d'écho sur d'autres thèmes comme le climato-scepticisme.
David Chavalarias, ces groupes dénialistes, est-ce qu'ils ont une véritable capacité de nuisance auprès de l'opinion? Parce qu'ils ne sont pas majoritaires.
Alors en fait, donc, ils sont loin d'être majoritaires, mais encore une fois, avec les méthodes notamment que vous avez mentionnées, c'est-à-dire l'astroturfing, comme ils sont organisés et synchronisés, et aussi qu'ils s'autorisent à utiliser des méthodes, par exemple, qui sont proscrites, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manipuler les algorithmes de recommandation sur Twitter, mais ils le font quand même, sur X maintenant, eh bien, ils ont quand même un impact assez important. Hein, par exemple, pour le climato-scepticisme, on a mesuré, là j'ai mesuré là récemment, qu'en gros, vous avez un ensemble d'à peu près une 60aine de milliers de comptes sur X qui a contribué à 80% des posts climato-sceptiques en France sur notre période d'observation. Donc il faut bien comprendre que si vous êtes organisé avec ce genre d'infrastructure, vous pouvez avoir une visibilité qui est démesurée par rapport à votre représentativité réelle.
Et si les scientifiques eux-mêmes s'organisaient pour être plus nombreux, en tout cas plus visibles, est-ce qu'ils pourraient gagner cette guerre de la communication ou pas? Est-ce que ça pourrait être une solution pour essayer de contrer ce dénialisme?
Alors, oui et non, pour deux raisons. La première, c'est que, encore une fois, les militants dénialistes utilisent des méthodes qui sont à la limite des règles d'utilisation des plateformes. Donc, les scientifiques ne vont pas se mettre à jouer avec ce genre de règles. Par ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'infrastructure elle-même de X est défavorable au discours scientifique pour plein de raisons différentes. Mais l'une des raisons, c'est par exemple qu'elle va amplifier de manière naturelle les contenus dits toxiques, les attaques, etc. etc. L'autre raison, c'est que les scientifiques ne vont pas se mettre à insulter les climato-sceptiques. Je veux dire, ce n'est pas du tout dans nos missions de faire ça. Alors que, de l'autre côté, les gens se prennent des insultes, voire des menaces de mort. Et quand vous êtes scientifique, vous n'avez pas du tout envie, ce n'est pas votre boulot de recevoir ce genre de choses. Donc en fait, il y a vraiment une asymétrie dans les rôles qui fait que c'est vraiment le réseau lui-même qui est défavorable et qui ne joue pas son rôle de modération comme il devrait le faire.
David Chavalarias, vous avez cofondé Hello Kit X, un collectif qui appelle à déménager collectivement d'X vers d'autres réseaux. On va en parler dans un instant. Puis vous répondrez également aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Mercredi dernier, lavabo à la main, Elon Musk avait annoncé la couleur. L'homme d'affaires comptait bien faire le grand ménage chez Twitter, c'est désormais chose faite. Quelques heures avant, Elon Musk avait confirmé dans un tweet le rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars.
Il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne, où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence. Ceci dit, Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal, ouvert à tous, où tout peut être dit sans conséquence.
Et ça, c'était en 2022 sur France 24. David Chavalarias, vous qui êtes mathématicien, spécialiste des réseaux sociaux, quand on écoute les propos d'Elon Musk à l'époque, qu'est-ce qu'on se dit là aujourd'hui?
En fait, tout ça, c'était du marketing. C'est-à-dire qu'il n'a pas acheté X pour défendre la liberté d'expression. Il a acheté X à des buts politiques, qu'on a vu pendant la campagne présidentielle. Et il l'a lui-même dit dans des tweets, puisqu'il disait que, en gros, si le mouvement woke continuait à se développer, il ne pourrait pas aller sur Mars. Et donc, il fallait mettre fin à ce mouvement woke. Donc, il a acheté X pour ça.
Il s'est acheté une arme de guerre, quand même, hein, très efficace, d'ailleurs.
Ah bah oui, c'est-à-dire que les médias sont des portes d'entrée très efficaces pour la manipulation d'opinions. Quand en plus c'est des réseaux sociaux numériques qui permettent de cibler les utilisateurs et d'obtenir des données en temps réel, c'est encore plus efficace. Oui. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en termes de population, X dans beaucoup de pays, dont la France, c'est l'équivalent en gros d'un TF1 en termes d'audience, sauf que vous pouvez en plus cibler. Et aussi, c'est en gros plus de 10 fois la marge de citoyens qu'il vous faut pour gagner une élection. Donc vous avez effectivement un grand pouvoir.
Dès le rachat de Twitter, les discours climato-sceptiques ont explosé, vous nous le disiez tout à l'heure, oui. Et les scientifiques ont commencé à partir quand même.
Oui, tout à fait.
Ça devenait intenable.
Ah bah c'est devenu intenable. Des scientifiques reçoivent régulièrement des menaces de mort pour leur prise de position. Moi-même, j'ai reçu des images de pendus juste parce que je construis une plateforme de portabilité. Enfin, donc c'est un espace extrêmement toxique et où il y a, il faut le dire quand même, des contenus illégaux. À l'heure où je vous parle, il y a des contenus néo-nazis sur X.
Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises auprès de la justice, justement, pour essayer de lutter contre la diffusion de ces informations par X ?
Alors, il y a plusieurs opérations judiciaires en cours contre X au niveau de la communauté européenne. On n'en sait pas plus, on sait qu'elles sont ouvertes, on attend le résultat.
Ça pourrait aboutir, selon vous, ou pas ? On a affaire vraiment à un mastodonte, si je peux me permettre,
non,
par
ça,
rapport
ça,
aux
ça
réseaux
peut,
sociaux et...
Ça peut aboutir dans le sens où l'Union européenne a déjà condamné notamment les Google et Facebook à plusieurs milliards d'amendes. Là, si j'ai bien compris, il s'agit vraiment de voir si on applique effectivement le DSA à la lettre, c'est-à-dire...
Le DSA
C'est la législation européenne, ça s'appelle Digital Services Act, donc qui régule les grands réseaux sociaux, les grandes plateformes, qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe. Et donc, notamment, cette législation a le pouvoir d'imposer une amende qui va jusqu'à 6% du chiffre d'affaires sur l'ensemble des activités du propriétaire d'une plateforme. C'est-à-dire que là, ça peut aller jusqu'à 6% de SpaceX, Tesla, X, Neuralink, etc. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont aller jusque-là ?
Vous parliez de toxicité, on va écouter les propos de Valérie Masson-Delmotte, la paléoclimatologue. C'était à ce micro le 17 janvier dernier dans l'Invité au Carré.
Moi, j'invite les personnes avec lesquelles j'avais le plaisir d'échanger sur Twitter X. Je les invite à me rejoindre sur Blue Sky, où je retrouve ce que j'avais aimé au début sur Twitter, des algorithmes pas biaisés, parce qu'ils ne sont pas biaisés par le nombre de personnes qui vous suivent. Et ce qui compte, c'est la qualité du contenu. On peut très rapidement trouver des fils par thématique qui vous intéresse, notamment sur tous les domaines scientifiques. Et donc, du coup, oui, je fermerai sans regret le compte X, qui est un lieu de désinformation, de dénigrement de scientifiques. Et c'est très frappant quand on sort de ce réseau qui est devenu toxique et haineux et qu'on va sur un réseau qui permet de dialoguer de manière constructive. C'est tellement plus agréable, en fait.
Voilà des propos avec le calme de Valérie Masson-Delmotte pour parler de la toxicité de X. Et c'était 3 jours avant la date du 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump, où vous avez justement organisé une fuite collective d'X à travers l'opération Hello Kitty X, application donc pour aider les internautes à migrer vers d'autres réseaux sociaux, David Chavalarias, sans perdre les contacts, parce qu'évidemment on crée une communauté, donc l'idée ça n'est pas de la perdre, mais pouvoir aller dans un réseau, on va dire, plus vertueux, plus fréquentable, c'était ça l'idée ?
Oui, alors déjà juste pour préciser, autour de Hello Kitty X, il y a deux choses. Il y a un mouvement citoyen qui ne dépend pas notamment du CNRS, qui est totalement indépendant, qui prône le fait de quitter X. Et puis ce mouvement utilise une des plateformes de recherche que je développe à l'Institut des systèmes complexes, qui permet effectivement cette portabilité.
Donc c'est l'outil permet de se déporter ailleurs.
Donc si vous voulez, là, on a un projet de recherche qui vise à analyser cette espèce de reconfiguration des réseaux sociaux numériques où on va aller vers des espaces plus ouverts. Et donc, dans cette analyse, on a besoin notamment de récupérer des données que ne nous donne plus X. Donc, on a construit cette plateforme qui, en gros, implémente ce qu'on appelle le droit à la portabilité effective des données. C'est le fait de pouvoir partir d'un réseau avec ces données. Ça, c'est inscrit dans la réglementation DSA. Donc, c'est ce que fait cette plateforme-là. Et au passage, ceux qui le souhaitent peuvent nous laisser leur graphe de connexion. Donc, cette plateforme est utilisée par plein de gens, notamment donc ce collectif Hello Kitty X, parce que c'est la seule manière de partir de X en gardant ses connexions et donc en reconstruisant le tissu social ailleurs.
C'est vous qui avez eu l'idée de ce nom, Hello Kitty X ?
C'est sorti dans des discussions.
Bon, c'était bien trouvé. Est-ce que ce nom va rester d'ailleurs ou pas ?
Alors, Hello Kitty X, c'était vraiment a été utilisé par ce collectif pour en gros lancer l'idée et créer de la mobilisation autour du vin. On verra quel sera l'avenir de
du 20 janvier.
Du 20 janvier, pardon.
Du 20 VIN.
Bien sûr, oui, du 20 janvier. On verra quel est l'avenir de ce nom-là. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette mobilisation a pris énormément en France. Elle a eu un écho dans tous les médias, y compris les médias opposés à cette migration. Il y a énormément de mouvements dans d'autres pays qui appellent à faire la même chose. Et donc, il commence à y avoir un mouvement mondial de remise en cause de l'usage de nos réseaux sociaux numériques.
Donc, il y a un mouvement français très significatif qui a entraîné dans son sillage d'autres pays.
Alors, je pense que les Français étaient pionniers dans leur organisation. Par ailleurs, il n'y a que en France où on a fait cette plateforme de portabilité. Il existe des petits outils qui permettent de retrouver un peu des connexions, mais ils ne sont pas exacts comme nous, on le fait.
Ouais.
Alors que nous, côté donc CNRS, on a vraiment l'ambition, parce qu'on veut observer cette migration à l'échelle, au niveau mondial, donc d'avoir une plateforme qui puisse tenir des informations et des utilisateurs au niveau mondial.
Quel est le résultat d'ailleurs par rapport à, on va dire, cet exode numérique, comme le titrait l'Express il n'y a pas longtemps ? Est-ce qu'il a été massif ou pas alors ?
Alors, si on regarde
de X, donc ex-Twitter vers d'autres plateformes.
Donc, si on regarde les chiffres, tout simplement, des succès des plateformes Blue Sky et Mastodon, qui sont les deux alternatives à Twitter, parce que c'est, en gros, ils font à peu près la même chose, sauf qu'ils sont libres, avec plus de liberté pour les utilisateurs, etc.
Blue Sky, plateforme américaine.
Blue Sky, plateforme américaine, entreprise. Ouais. Mastodon, protocole décentralisé européen. Ouais. Donc, personne n'est propriétaire de Mastodon. En tout cas, ces deux écosystèmes numériques. Blue Sky a gagné plus de 20 millions d'utilisateurs en deux mois. Donc, ils étaient à 10 millions, ils sont passés à 30 millions et ça continue. Mastodon, pareil, a gagné plusieurs millions d'utilisateurs. Donc, il y a vraiment une migration. Après, par rapport à notre projet Open Portability, qui est la plateforme de portabilité, on l'a lancé le 8 janvier en première phase. Pour le moment, notre objectif, donc, c'est vraiment de cartographier l'état du réseau Twitter X tel qu'il est maintenant, pour après comprendre comment ses relations et sa manière de faire du social va évoluer quand les gens vont basculer sur des environnements plus ouverts. Donc cette cartographie, pour le moment, on a référencé à peu près 10 millions de comptes et certaines de leurs connexions à partir de un peu plus de 30 000 utilisateurs inscrits pour le moment sur la plateforme.
10 millions de comptes à l'échelle mondiale ?
Alors, c'est pour l'instant, pas mal français, puisque le mouvement est parti de la France, donc on a beaucoup de comptes français. Ça veut dire que, je n'ai pas encore calculé le recoupement, mais en gros, on a plus de la moitié certainement des comptes Twitter qui sont en gros référencés par la plateforme, mais on a juste les identifiants en fait. Et après, ça veut dire que ces comptes-là, s'ils se connectent sur notre plateforme, on leur trouvera des propositions de reconnexion dès la première minute de reconnexion. Ouais. En fait.
Est-ce que cette initiative telle qu'elle l'est aujourd'hui, avec les résultats dont vous nous parlez, David Chavalaria, c'est de nature à inquiéter X et son patron Elon Musk ou pas ?
Alors, je ne sais pas dans la tête...
Ou est-ce qu'on peut se dire que ça les fait doucement rigoler ?
Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête d'Elon Musk. Ce qui est sûr, c'est que X est une plateforme qui ne respecte pas le droit européen, ni d'accès des chercheurs aux données, ni des recommandations de portabilité. Et donc, ces plateformes sont de facto en fait, moins intéressantes que les autres. Donc, la seule chose qui retient les utilisateurs sur ces plateformes-là, c'est le fait que les utilisateurs sont captifs de leur audience. À partir du moment où les utilisateurs ont la possibilité de la portabilité...
Ouais.
On verra bien, mais c'est possible que les gens aillent ailleurs, puisque ailleurs, c'est quand même objectivement bien mieux.
Donc, concrètement, pour ceux qui souhaitent quitter X tout en gardant leurs données, il suffit d'aller donc sur HelloKitX.com, hein, je crois que c'est ça.
C'est OpenPortability.org.
On le mettra
HelloKitX, c'est le collectif qui fait de la mobilisation où il y a des infos
sur, on a toutes les infos,
sur ce qu'il faut faire. Mais la plateforme, elle, c'est OpenPortability.org. Et donc, si vous allez là, vous pouvez vous connecter, vous pouvez partager votre archive et après, on commence à vous proposer de recréer les liens sur Blue Sky et Mastodon.
Il faut être un petit peu patient d'ailleurs, c'est ça ? Ça n'arrive pas tout de suite. Hein.
Alors, en fait, c'est un processus. C'est-à-dire qu'on va vous recréer des liens avec ceux qui sont déjà arrivés. Et après, comme vous êtes déjà inscrit sur la plateforme, ceux qui arrivent après vous, on va les recréer au petit à petit. Donc, c'est un petit peu comme un siphon. Donc, vous avez des gens qui passent et on recrée les liens. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que même si vous ne quittez pas X, si vous perdez 20% de votre audience parce qu'ils vont sur Blue Sky et Mastodon, vous pouvez utiliser cette plateforme Open Portability pour récupérer cette audience de l'autre côté. Donc, la plateforme, c'est juste une passerelle. Hein. Les gens l'empruntent dans un sens comme dans l'autre.
David Chavalarias, vous avez fait l'objet de très nombreuses réactions et attaques d'ailleurs à l'occasion de cette opération. On va en parler dans un instant. Et puis, vous nous direz pourquoi le combat numérique est vraiment plus qu'important aujourd'hui. N'oubliez pas d'ailleurs également de nous envoyer vos messages sur la page de la Terre au Carré. On répond à vos questions dans un instant.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Les experts du climat fuient Twitter. Les derniers en date, Christophe Cassou et Robert Votard, tous deux membres du GIEC. Comme de nombreux experts, ils sont harcelés par des climato-sceptiques.
Ça va vraiment de l'insulte raciste ou des problèmes sexistes, notamment si ce sont des femmes qui sont scientifiques.
Les insultes se comptent en centaines par jour. Elles sont souvent liées à des comptes de désinformation tenus par les anciens leaders anti-vax pendant la pandémie. Selon une étude du CNRS parue en 2023, le rachat de Twitter par Elon Musk serait en lien avec ce phénomène.
Documentaire de BFM TV en 2023 avec la voix de Serge Zaka, qui est agroclimatologue. On vous reçoit aujourd'hui, David Chavalarias, vous qui êtes mathématicien, qui avait lancé donc avec des collègues du CNRS HelloKitX pour claquer collectivement la porte du réseau social X sans perdre sa communauté. Une initiative qui vous a offert un énorme shitstorm sur les réseaux sociaux. Quel type de réaction est-ce que vous avez reçu ?
Alors déjà, l'initiative est un mouvement collectif et il n'y a pas que des gens du CNR. D'ailleurs, je suis quasiment le seul, mais il y a d'autres personnes.
Avec des associations d'ailleurs qui vous ont
associations,
suivi.
Et moi, de mon côté, c'était plutôt sur le côté plateforme de portabilité qui est un projet de recherche sur lequel s'appuie le Kitix. Mais en fait, le fait d'avoir, en gros, d'être associé à quelque chose qui en fait propose une nouvelle liberté à l'utilisateur, hein, juste choisir un autre réseau, les libérer de leur captivité, de la captivité de leur audience, m'a valu des attaques très agressives sur les réseaux sociaux, notamment des images de pendus, etc., etc., d'un groupe dont je sais exactement d'où ils viennent au départ, puisque c'est ceux que j'ai étudiés dans Toxic Data, chapitre 11. C'est une chambre d'écho numérique qui s'est construite sur un vocabulaire et des missions, des initiatives un peu anti-système, complotistes, etc., d'opposition au mouvement vaccinal. Les leaders sont des gens, en fait, qui font le buzz, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques, parce qu'il faut savoir que quand vous faites le buzz sur Twitter, comme c'est monétisé, vous gagnez de l'argent. Donc quand vous attaquez des gens, que des gens vous rejoignent, vous montez des cas, etc., vous gagnez de l'argent. Donc, vous avez ici un tout petit microcosme qui s'est activé. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes dans un espace mondialisé. Donc, si vous avez 1000 personnes qui s'attaquent à vous au niveau de la France, c'est rien. Mais vous les avez en direct et du coup, ça fait quand même un impact.
Mais ce que vous nous dites, c'est que ces attaques ne viennent que d'un seul groupe ou ensuite ça s'est diffusé à d'autres parties
Alors, c'est vraiment parti de ce groupe-là. Donc, c'est une chambre d'écho numérique qui s'est coincée entre la France insoumise et Reconquête Rassemblement National et qui donc a fait de l'antisystème qui est majoritairement pro-russe, etc. Et qu'on a observé sur toutes les polémiques depuis maintenant 4-5 ans. Et après, ce mouvement-là et la désinformation qu'ils ont générée a été récupérée par des groupes parlementaires à l'Assemblée, notamment du Rassemblement National et de l'Union des Droites, pour essayer d'attaquer à la fois ma personne, mais aussi le CNRS en général, dans une période de vote de budget. Et donc, il y a eu aussi un opportunisme politique qui s'est fondé, en fait, sur à peu près rien.
Donc, vous êtes pris une campagne de harcèlement semblable à celle que vous avez étudiée. Donc, vous connaissiez bien la chose. Et là, ça vous est revenu en pleine figure.
Oui, mais après, bon, en fait, ça vous revient à la figure si vous regardez Twitter, mais si vous êtes ailleurs, c'est des gens qui montent des choses sur des choses qui n'existent pas. Bon, chacun fait ce qu'il veut de ses week-ends, hein, mais fallait s'y attendre d'une certaine manière.
Hein. Ouais, mais vous laissez entendre que finalement vous avez vécu ça de façon assez sereine, mais c'est réellement le cas ou pas ?
Non, c'est jamais agréable de se prendre ce genre d'insultes. Hein. Mais moi, ce qui était le plus désagréable, c'est quand on s'attaque aux équipes, aux gens qui participent, etc., qu'on génère en fait toute une espèce de réaction qui doit du coup appeler à des réponses où on perd du temps à apporter des réponses. Bref. Mais donc, effectivement, on a été victime exactement de ce qu'on a documenté et de ce que les témoignages que vous avez présentés me montrent, c'est-à-dire une facilité d'attaquer des gens, de leur faire perdre du temps, d'être agressif et au final de les décourager d'action, d'agir.
Steve Bannon, conseiller de Donald Trump, l'a dit, notre ennemi, je le cite, ce ne sont pas les démocrates, ce sont les médias. Et la manière de traiter avec eux, c'est d'inonder la zone de merde. C'est exactement ce qu'a fait Elon Musk sur X.
On peut dire que c'est exactement ce qu'a fait Elon Musk sur X, au sens où il a arrêté toute modération. Il a rétabli des comptes agressifs. Lui-même a diffusé des théories conspirationnistes à nombreuses reprises. Hein, même un truc, par exemple, assez choquant, c'est quand le mari de Nancy Pelosi s'est fait attaquer par quelqu'un à coup de marteau qui était venu agresser Nancy Pelosi, et il a relayé l'idée que, comme quoi, peut-être qu'en fait, c'était son amant, etc. Donc, vous avez un système qui est organisé autour de la désinformation, l'idéologie, une sorte de complotisme qui est un peu vraiment toxique.
Il y a un vrai débat en ce moment en France, de la part des scientifiques, mais des médias aussi, de savoir est-ce qu'il faut ou pas quitter X aujourd'hui. C'est une vraie question. Certains médias ont déjà annoncé qu'ils allaient le faire. D'autres sont en réflexion. D'autres disent qu'il ne faut pas partir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, tous les travaux que j'ai faits et que des collègues ont faits montrent que X n'est pas propice au débat public. X amplifie la négativité. X, d'ailleurs, est biaisé politiquement. Il y a plusieurs études qui montraient qu'il était biaisé du côté des conservateurs aux États-Unis à un moment donné. Enfin bon, il y a un gros problème avec X. Ce n'est pas un terrain favorable à l'information. La question de savoir s'il faut quitter X, c'est le choix de chacun. C'est comme de savoir s'il faut conduire une voiture sans frein. Donc, chacun fait ses décisions. Ce qui est important de comprendre, c'est que X Et toutes ces plateformes de ce type-là tiennent les utilisateurs captifs de leur audience. Et donc, ce qui est important, c'est qu'au moins ceux qui veulent quitter X puissent le faire sans perdre le capital social qu'ils ont eu, et que ceux qui restent sur X puissent rester connectés avec ceux qui partent de X, notamment en passant par la plateforme que l'on a conçue. Ça permet de récupérer les abonnements sur d'autres comptes.
Certes, mais quel est l'argument, selon vous, le plus convaincant pour inciter un média de service public, par exemple, à quitter X aujourd'hui ?
Alors, si on parle des médias, il y a énormément de raisons de quitter X. Hein, il faut savoir que X est conçu pour détruire le journalisme. Musk dit à longueur de journée que les journalistes sont des menteurs, que les vrais journalistes, ce sont les tweetos, que les legacy médias, comme il les appelle, sont morts. Et Musk s'est mis au centre de ce réseau. Il a changer l'algorithmique pour qu'il soit au centre de ce réseau. Personne ne peut échapper à Musk, à part le bloquer dans son fil d'actualité. Donc en fait, les médias en restant sur X sont dans un endroit où on ne fait que répéter qu'ils sont des menteurs et qu'ils sont inutiles. Par ailleurs, en alimentant X avec leurs nouvelles, X récupère ça dans son intelligence artificielle Grok, et Musk dit lui-même que Grok va être meilleur que les médias parce qu'il, en temps réel, il pourra donner de l'information.
C'est intelligence artificielle. Hein.
C'est ça, c'est une intelligence artificielle qui, en gros, fait la synthèse de ce qui se passe sur X. Donc, en fait, en restant sur X, non seulement ils exposent leur audience à des gens qui disent que c'est des menteurs et qu'ils sont inutiles, mais en plus, ils se font aspirer leur information dans un nouveau média, l'intelligence artificielle Grok, qui dit qu'elle va faire mieux le boulot qu'eux. Donc, c'est juste suicidaire.
On va passer aux questions parce qu'elles sont déjà très nombreuses. David Chavalarias, Gilles vous interpelle sur la page de la Terre au Carré. Il a une question pour vous. Est-ce que quitter X, ça ne s'apparente pas à quitter un champ de bataille pour laisser la place libre aux climato-négationnistes ?
Alors, cette question, elle est importante parce qu'elle revient dans plein de variations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que X est une plateforme privée. Les plateformes privées, ce qu'elles doivent faire, c'est montrer à leurs utilisateurs que c'est intéressant de venir chez eux et donc pour accueillir des gens. Là, il y a une inversion du discours. On vous dit, vous devez rendre service à X en assurant la diversité. Non, personne n'a à rendre service à X en étant sur X et en supportant toutes ces choses-là juste pour qu'il y ait une diversité. X n'est pas le seul réseau social. Il y a des réseaux sociaux qui sont encore plus extrêmes que X et vous n'allez pas y aller juste pour assurer la diversité. Il faut choisir ces réseaux sociaux suivant des principes. Est-ce que le réseau social garantit une liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas de X, les comptes sont fermés de manière arbitraire, etc. Est-ce qu'il garantit une circulation non biaisée de l'information, ce qui n'est pas le cas? Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, bah allons sur les alternatives, c'est tout simple.
Victoire demande, est-ce qu'il faut pour la même raison quitter Facebook, par exemple?
Alors, Facebook...
Et Instagram, hein, puisqu'on est dans la famille Zuckerberg.
Ouais, Facebook commence à prendre le chemin de X. Hein. Mark Zuckerberg a dit qu'il arrêtait la modération. Je rappelle quand même qu'un Facebook mal modéré a favorisé, contribué, ça c'est le rapport d'Amnesty International qui le dit, ouais, à des génocides en Birmanie et en Éthiopie. Donc ça veut dire que si Facebook, qui lui a en gros 4 fois plus d'utilisateurs que X, arrête sa modération, ça peut poser des dangers. Donc il faudra se poser aussi ce genre de questions. Mais de manière générale, vous avez une transition entre des réseaux fermés, X, Facebook et LinkedIn, etc., vers des réseaux ouverts où il y a plus de liberté. Et il y a juste à prendre cette liberté, c'est tout.
Manu nous dit, les algorithmes choisissent les sujets qui nous plaisent, nous éloignant de fait de ce qui nous fait peut faire débat en tout cas. Je ne vais plus sur X, dit-il, j'ai déménagé sur Blue Sky. Mais je me demande si je ne cours pas ainsi le risque de ne me retrouver qu'avec des gens de mon avis. Donc même effet que celui des algorithmes.
Alors la réponse est non, hein. Il y a des gens, Blue Sky et Mastodon sont très divers, il y a des gens de toutes les opinions sur ces réseaux-là, mais la réponse surtout c'est que X, lui, construit des bulles, ouais. C'est-à-dire qu'on a démontré, ça c'est plusieurs articles scientifiques dont des travaux de l'Institut des systèmes complexes, qu'en fait X renforce les chambres d'écho, il vous renforce en plus dans votre chambre d'écho, et en plus il rend les chambres d'écho hostiles les unes avec les autres. Donc la question de savoir si c'est bien resté dans sa bulle, elle peut être ouverte, hein. Par exemple si on aime les oiseaux, on peut rester avec des bulles d'oiseaux, il n'y a pas de problème. Mais la question de savoir est-ce que c'est bien d'avoir un média qui construit des bulles, qui les renforce et après qui les oppose, la réponse est absolument non. Donc c'est la seule manière de rester dans sa bulle, en fait, c'est justement de ne pas utiliser la plateforme que l'on propose, parce que ça veut dire que la proportion de vos followers qui vont partir, vous n'allez pas les récupérer.
Je vous retransmets ce message d'Alain, même si vous avez déjà répondu à ce message. Raison de plus, dit-il, pour que les scientifiques restent sur X pour contrer la désinformation. Or, ça ne marche pas, c'est ce que vous dites.
Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, la désinformation, quand vous parlez sur X, vos messages restent dans votre chambre d'écho. Oui. Et donc, en fait, et ça, on l'a vraiment montré à plusieurs reprises, la désinformation ne circule pas dans les mêmes sphères sur X que les fact-checking ou les vérifications. Donc, c'est un peu une illusion.
Merci beaucoup, David Chavalarias. Pour ceux qui souhaitent donc quitter X pour transférer leurs données, où est-ce qu'il faut aller?
Donc, le site, c'est openportability.org. Il y a aussi le site HelloKitX.com qui présente d'autres choses. Et même si vous ne voulez pas quitter X, vous pouvez l'utiliser. Ça vous permet de garder vos abonnés quand ils partent.
Et je renvoie sur Toxic Data, un livre que vous avez signé aux éditions Flammarion, dossier préparé par Lucie Sarfati. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui dans La Terre au Carré.
Merci.